Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel, toujours au Château des Vaux pour la troisième et dernière émission du jour qui est consacrée à un thème magnifique, c'est l'intériorité et la fraternité. Très beau sujet et sujet pertinent dont on a aujourd'hui le sentiment que ces deux dimensions absolument complémentaires, voire indissociables de la vie humaine sont aujourd'hui battues en brèche dans cette société néolibérale qui est basée sur l'individualisme et le consumérisme face à ce double péril. Eh bien, l'Église catholique peut-elle encore inverser la tendance? Est-elle entrée en résistance avec ce fameux Laudate Si dont on continue de beaucoup parler, l'encyclique papale sur l'écologie intégrale? Nous allons voir cela en compagnie de Pascal Balmont, qui est chargé de mission écologie et société au sein de la Conférence des évêques de France.
Fête des engagements, 12 mai 2023. Une école de l'intériorité et de la fraternité.
Est-ce que vous êtes déjà plutôt, finalement, optimiste quant à la crise écologique qui nous secoue et qui secoue la planète?
Alors, vous allez trouver que je coupe les cheveux en quatre en accordant trop d'importance aux mots, mais je crois que c'est important, les mots. Est-ce que je suis optimiste? Non. Est-ce que je suis dans l'espérance? Oui. Mais voilà, on n'est pas sur les mêmes registres.
Alors c'est quoi la différence justement? Ça c'est important ce que vous dites là.
L'optimisme consisterait soit à considérer que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas si graves que cela, soit à considérer qu'on trouvera toujours des solutions technologiques qui vont permettre de régler tous les problèmes par un coup de baguette magique. Et ça, je crois que c'est typiquement ce que j'appellerais un faux réalisme, un réalisme illusoire, alors que l'espérance chrétienne, c'est au contraire la lucidité, et c'est bien la position du pape dans l'encyclique Laudato Si, la lucidité qui consiste à ouvrir grand les yeux sur l'ampleur et la gravité de toutes les difficultés environnementales, sociales, anthropologiques auxquelles nous sommes confrontés. Donc on n'est pas dans l'optimisme du ravi du village, mais en même temps, avoir chevillé au corps l'espérance chrétienne qui nous rappelle d'une part que nous ne sommes jamais seuls, et d'autre part que, en définitive, jamais la mort n'aura le dernier mot. Donc voilà, je suis dans l'espérance, ou j'essaye d'être dans l'espérance. Est-ce que je suis optimiste? Non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je dors bien et j'aime la vie et ce monde est beau. Et voilà, c'est ça aussi l'espérance chrétienne, c'est se rappeler qu'en dépit de tout, ce monde est un don du Seigneur, que nos frères et nos sœurs sont des dons de Dieu et que le Seigneur a aimé ce monde et qu'il l'aime et que nous sommes appelés à l'aimer nous aussi en ayant conscience de tout ce qui en lui ne va pas bien, mais en nous rappelant constamment que notre vocation d'homme et de femme, de fils et de fille de Dieu, c'est de prendre soin de la création du Seigneur et de toutes ses créatures. Et ça ne nourrit pas en moi je ne sais quel optimisme, ça nourrit en moi beaucoup de mobilisation, de foi et encore une fois d'espérance.
Alors je suis loin, très loin d'être un spécialiste de Laudate Si. Néanmoins, il me semble qu'il s'agit là de ce qu'on appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire qu'elle intègre aussi l'homme, contrairement parfois à certains mouvements écologistes qui aimeraient que finalement la planète se passe de l'homme. Non.
Ah oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. L'adjectif intégral. Alors, comme on est en France, l'adjectif intégral pose parfois question ou problème parce que certaines personnes peuvent tenter de le confondre avec intégrisme. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est intégral au sens de systémique, de global, de globalisant. Si vous voulez, on peut se dire que l'écologie intégrale, ou je dirais l'écologie chrétienne finalement, telle que le pape François, à la suite de ses prédécesseurs, nous invite à la vivre, à la déployer, cette écologie intégrale, elle comporte quatre dimensions d'alliance et de soins. Relation à moi-même, comment est-ce que je prends soin de la présence du Seigneur en moi? C'est la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Rappelez-vous que vous êtes un sanctuaire de Dieu, au verset 16. Comment est-ce que je prends soin de la présence de Dieu en moi? Ensuite, à côté de cette relation à moi-même, de cette écologie du rapport à moi-même, il y a l'écologie du rapport aux frères, il y a l'écologie du rapport à autrui, c'est le bon samaritain. Comment est-ce que je prends soin réellement soin, comment est-ce que je veille sur mes frères et sur mes sœurs. La troisième dimension, c'est la relation à la création. Cette création qui est un don de Dieu, comment est-ce que je choisis d'en être garant, gérant, jardinier et pas un prédateur. Et puis bien sûr, la quatrième relation qui fonde les trois autres, c'est ma relation au Seigneur et c'est le soin que je prends de ma vie spirituelle, de ma vie d'église. Voilà. Et l'idée de l'écologie intégrale, au fond, c'est de dire que dès lors que l'une de ces quatre relations se dégrade ou se détériore, automatiquement, les trois autres vont se dégrader ou se détériorer. Mais aussi qu'inversement, dès lors que l'une de ces quatre relations se revivifie, se restaure, se renforce, alors les trois autres vont se revivifier, se restaurer, se renforcer. Donc l'écologie intégrale, c'est l'écologie environnementale, le climat, la biodiversité, toutes ces questions extrêmement graves, mais c'est aussi la dimension sociale. Dans la Laudato aussi, le pape François a une formule très forte, c'est au numéro 49 de l'encyclique, dans lequel il nous appelle à entendre tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Et les deux, en même temps, la manière dont je me comporte vis-à-vis des plus faibles, des plus petits, des plus pauvres, détermine la façon dont je me comporterai vis-à-vis de la création, et réciproquement, tout est lié. Donc, dimension environnementale, dimension sociale, dimension anthropologique, quelle est ma vision de la personne humaine, quelle est ma vision de la communauté humaine, et dimension spirituelle, bien évidemment. Et c'est vraiment un tout.
Oui. Je vais vous poser une question que vous jugerez peut-être provocatrice, mais je ne peux pas m'empêcher de revoir chaque président américain prêtant serment une main sur la Bible, ce qui n'empêche pas ce pays d'être un des pires pollueurs de la planète. Est-ce que là, il n'y a pas un problème, finalement?
Alors, je pourrais m'en tirer par une pirouette en vous répondant que nous avons tous aux contradictions et que, à titre personnel, je ne prétends pas être le champion du monde, du soin de la planète et de la maison commune. Mais ça serait un petit peu court comme réponse. Ce qui est vrai, c'est que il y a toute une... Il y a un historien américain qui s'appelait Lynn White qui a publié, c'est déjà ancien, en 1967, un article universitaire, un article de recherche, dans lequel il incriminait finalement la tradition chrétienne avec une certaine conception de la création et de la place de l'homme dans la création. Et il expliquait dans son article que cette tradition chrétienne pouvait se trouver à l'origine de toutes les dégradations causées par l'espèce humaine à la maison commune.
Donc c'est l'homme est le boss, quoi, dans la vision biblique.
Dans une certaine conception, compréhension de la Genèse. Mais justement, par exemple, dans la Laudato aussi, le pape François reprend ces questions-là et déploie, à la suite d'un certain nombre de théologiens, je pense notamment à un très très grand théologien qui s'appelle Moltmann, et Jürgen Moltmann est vraiment l'un des grands penseurs de la théologie chrétienne de la création, parce que sur ce plan-là, orthodoxe, protestant et catholique parlent vraiment la même langue, comme d'ailleurs sur la plupart des autres plans. Hein. Et donc voilà, le pape François déploie une réflexion dans un chapitre de la Laudato aussi qui s'intitule « L'évangile de la création », une réflexion sur le récit de la Genèse dans laquelle il nous montre bien, à la suite de Moltmann notamment, à quel point on se trompe en lisant la Genèse comme une sorte de blanc-seing qui nous serait donné pour exploiter la création. Il faut d'abord se rappeler que nous sommes nous-mêmes des créatures, complètement immergées dans la créature. C'est d'ailleurs le cantique des créatures de saint François d'Assise. Nous sommes des créatures, alors en même temps, pas des créatures comme les autres, parce qu'il nous est donné ce rôle spécifique d'être les gardiens de l'œuvre du Seigneur. Et de prendre soin de l'œuvre du Seigneur. Mais ça nous. Donc un rôle spécifique, mais pas une capacité ou une autorisation à faire n'importe quoi.
Fête des engagements, 12 mai 2023, une école de l'intériorité et de la fraternité.
Alors, il est difficile d'envisager l'écologie sans regarder finalement le contexte sociopolitique qui est le nôtre. On est dans une économie mondialisée, on peut dire ultra-capitaliste. Est-ce qu'on peut pratiquer l'écologie et nous remettre dans les rails de la création originelle dans un système qui est le nôtre? Est-ce qu'il y a une réflexion politique dans la Laudato si'?
Oui, il y a une réflexion politique dans la Laudato aussi, et qu'une réflexion très, très fine, parce qu'elle distingue bien ce qui relève d'un échelon mondial, du rôle des États, mais aussi la prise en compte du rôle des multinationales, des intérêts financiers, enfin, toutes ces dimensions-là sur lesquelles vous et moi, nous n'avons à titre personnel strictement aucune prise. Mais il y a aussi tout ce qui relève du champ politique local, de proximité, et là déjà, voilà, et puis il y a tout ce qui relève de nos pratiques personnelles et collectives. Je vous donne un exemple très très concret, hein, pour illustrer mon propos. Voilà, en France comme ailleurs, moins que chez nos voisins espagnols, mais chez nous quand même aussi, nous sommes de plus en plus confrontés à une pénurie préoccupante de l'eau. La ressource en eau se fait de plus en plus rare, et cela occasionne toutes les tensions que vous savez, que nous savons tous. Alors, il est de bon ton d'incriminer les agriculteurs, dans la mesure où, par exemple, on le sait bien, ça c'est quantifiable, c'est quantifié, aujourd'hui, grosso modo, un peu plus de la moitié des prélèvements en eau en France proviennent de l'agriculture et des pratiques agricoles. Donc, boum, tout le monde tire sur les agriculteurs. C'est un peu court, c'est un peu facile, parce qu'en réalité, l'activité des agriculteurs, elle s'oriente au bout du compte vers nos propres pratiques de consommateurs, les vôtres comme les miennes. Il faut par exemple savoir que pour produire l'équivalent d'un kilo de viande de bœuf, il faut aujourd'hui en France entre 13 et 14 000 litres d'eau. Ce qui est absolument phénoménal. Absolument phénoménal. Donc la question, c'est pas qu'est-ce que font les agriculteurs, la question c'est qu'est-ce que nous consommons. Alors je parle de la viande, mais toujours pour rester sur ce chapitre de l'eau, il faudrait aussi se rappeler que pour produire un blue jean, je regarde, oui, voilà, pour produire votre blue jean.
Mon blue jean.
Et voilà, vous êtes pris au piège. pour produire votre blue jean, il faut grosso modo entre 20 et 30 000 litres d'eau. Et pour produire ce smartphone que je suis en train de recharger pendant que nous discutons, pour produire un smartphone, en sachant qu'en France, nous, enfin pas moi, pas vous, mais en moyenne, les Français changent de smartphone tous les deux ans. Eh bien, pour produire ce smartphone que nous changeons tous les deux ans, il faut entre 70 000 et 80 000 litres d'eau. Donc là, nous avons, c'est une manière de répondre à vos questions, à votre question. Si je réfléchis à mes pratiques quotidiennes, alors moi tout seul, ça ne va pas changer la face du monde, mais si vous et moi, nos familles, nos proches, nos amis, bref, c'est la théorie de la goutte d'eau, si vous voulez, ou de la tache d'huile, plus exactement. Si tous, peu à peu, nous changeons nos pratiques, ça va avoir un effet.
Mais vous et moi, nous sommes conscients de ça. Néanmoins, j'ai un jean et vous avez un smartphone.
Et j'ai aussi un jean à la maison. Oui.
Ben oui, c'est difficile.
Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est difficile. Mais c'est ça que je trouve très intéressant dans la pédagogie du pape François. C'est qu'il faut bien voir deux choses. D'une part, il nous place la barre extrêmement haut, puisque ce dont il est question, c'est de l'appel à une conversion, une métanoïa au sens chrétien du terme, une conversion radicale. Changer de paradigme, changer notre regard sur le monde, et bon, ça va très loin. Et en même temps, il n'arrête pas de nous dire que rien n'est jamais vain, rien n'est jamais inutile. Le moindre petit pas a déjà beaucoup de beauté et de force en lui-même, parce que ce qui est important, c'est de se mettre en chemin. Voilà, donc un horizon de conversion très radical et en même temps un chemin très progressif et très serein pour y parvenir. Et ça, je trouve ça très beau.
Ouais. Alors, dans notre société, la pollution n'est pas qu'atmosphérique, elle ne touche pas que les poumons. Il y a une forme de pollution qui s'attaque aussi à l'âme humaine. Je pense à la violence, je pense aux drogues au pluriel, je pense à la pornographie, à la pédocriminalité et j'en passe. Est-ce qu'il est question de tout cela aussi dans le Laudato Si, dans votre propre travail aussi vis-à-vis de la conférence des évêques de France? J'aimerais aussi qu'on en vienne aussi à
ça. Oui, quand on parle de pollution, vous avez raison de le souligner, lorsque l'on parle de pollution, il faut vraiment essayer d'avoir en tête l'ensemble de ce qui nous pollue et de ce qui nous pollue intérieurement et de ce qui abîme mon âme, de ce qui réduit ma vie spirituelle. Bien sûr, il y a tout cela qui est à prendre en considération. Alors oui, c'est l'écologie intégrale, ben, il y a aussi tout ce qu'on appelle l'écologie humaine, l'écologie spirituelle. Donc il y a bien cette ambition de véritablement prendre en compte toutes les dimensions de la personne, son corps, son cœur, son âme, son esprit, ses relations avec autrui, sa manière de se comporter. tout fait sens. Alors, si on le dit positivement, tout fait sens. Si on le dit de façon plus négative, rien n'est innocent. Il ne s'agit pas de passer son temps à interroger, à scruter tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons. Mais en même temps, je reviens à la formule du pape, tout est lié. La question des drogues, la question de la pédophilie, ou des abus sexuels d'une manière ou d'une autre, la question de la pornographie. Toutes ces questions-là relèvent en définitive de ma manière d'habiter le monde et de me mettre en relation avec autrui. Donc on est bien au cœur de cette approche intégrale de l'écologie. Complètement. Oui.
Fête des engagements, 12 mai 2023, une école de l'intériorité et de la fraternité.
Alors le cœur de l'émission, c'était finalement intériorité et fraternité. Deux mouvements qui sont spécifiquement chrétiens, parce que finalement, si je me rappelle l'évangile, le Christ nous invite à la plonger en soi, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Puis second mouvement, c'est le mouvement vers l'extérieur, c'est l'attention aux plus petits, le service du frère. Jamais l'un sans l'autre, quoi.
Oui, jamais l'un sans l'autre, c'est exactement ça. La fraternité... Alors, je ne sais pas si elle est une spécificité chrétienne, mais en même temps, il faut toujours que nous nous rappelions que nos aînés, les premières églises chrétiennes, se désignaient elles-mêmes par le titre, par le mot de fraternité, adelphotes. Voilà. L'adelphotes, c'est la communauté des frères en Christ, parce que nous sommes toutes et tous fils et fils du même Père. Donc bien sûr, la fraternité fait complètement partie de la foi de l'Église. En même temps, n'ayons pas la prétention de penser que nous en serions les uniques propriétaires ou que nous en ayons l'exclusivité. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas faire l'impasse. Voilà. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la fraternité, de la même manière qu'il n'est pas de vie chrétienne sans vie intérieure. Alors pareillement, nous n'avons pas l'apanage de la vie intérieure, mais nous ne pouvons pas en faire l'impasse. Et puisqu'on est dans le dispositif d'une journée de l'école catholique, moi je voudrais surtout insister sur la manière dont ces questions d'éveil à l'intériorité, d'éveil à la fraternité, constituent vraiment des enjeux éducatifs primordiaux, cruciaux pour l'éducation de manière générale et pour l'éducation chrétienne de l'école catholique en particulier. Là, c'est vraiment, d'autant plus que au début de notre entretien, vous avez utilisé, je me souviens, le mot résistance, le mot des résistants. Alors, je ne sais pas s'il faut... Enfin, il y a une petite connotation belliqueuse, potentiellement, mais en même temps, je ne suis pas loin de vous suivre. Oui, nous avons à résister tranquillement, on n'est pas en guerre contre personne, mais à résister tranquillement, mais résolument, à une certaine culture ambiante ou à un certain air du temps qui voudrait nous faire croire que nous ne sommes que ce que nous consommons, par exemple, ou qui voudrait nous faire croire que la vie se réduit à une lutte permanente de tous contre tous. C'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la dimension chrétienne de la personne, et pour moi c'est pas ça l'école catholique.
Oui. Le défi de l'intériorité, c'est extrêmement évidemment important. Les enfants... Finalement, la société marchande, si j'ose dire, n'aime pas que nos enfants soient seuls avec eux-mêmes. On leur met tout de suite un smartphone, des programmes, des TikTok, etc. Quel combat à mener ?
Oui, c'est un combat, y compris d'ailleurs au sens de combat spirituel, y compris d'abord au sens de combat spirituel, puis ensuite c'est effectivement un engagement éducatif de tous les instants qui passe par des... Moi je crois beaucoup à la vertu des petits gestes concrets qui ne payent pas, enfin qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais qui construisent patiemment dans la durée quelque chose de beau. Je prends un exemple très concret. Il y a beaucoup d'établissements, de plus en plus de l'enseignement catholique, qui développent ce que j'appellerais des plages de silence. Nous faisons beaucoup vivre nos enfants et nos jeunes dans un bruit constant. On n'arrête pas de parler, puis il y a de la musique, puis le volume monte de plus en plus. Et moi, j'aime beaucoup ces établissements qui par exemple, prennent l'habitude entre chaque séquence pédagogique ou bien en début de journée, d'instaurer en classe, c'est pas forcément long, c'est 2 minutes, mais 2 minutes de silence. Ces 2 minutes de silence, elles sont extrêmement belles et fécondes parce que l'enfant ou le jeune, si telle est sa foi, sa pratique, peut les nourrir de sa prière ou d'une vraie dimension spirituelle. Mais quand bien même cette dimension directement ou explicitement spirituelle ne serait pas présente dans son silence, ben c'est une manière de faire retour, de se recentrer, de s'apaiser, de se rendre disponible à ce qui va suivre, de récapituler ce qui a précédé. Voilà. C'est un exemple, on pourrait donner d'autres, mais voilà, je crois que il ne s'agit pas de lancer de grands programmes, il s'agit de faire attention à nos petits gestes du quotidien. Simplement un autre exemple. Quand vous entrez dans un établissement scolaire, il y a des établissements scolaires où chacun passe, voilà, on ne fait pas attention à autrui. Puis il y a d'autres établissements scolaires où tout le monde dit bonjour à tout le monde. C'est tout bête ce que je vous dis, mais ça dit quelque chose d'essentiel. Est-ce que je suis tout seul avec des gens que je côtoie mais sans même les voir, à la limite? Où est-ce que vraiment nous faisons communauté? C'est ça l'éducation à la fraternité.
Fête des engagements, 12 mai 2023, une école de l'intériorité et de la fraternité.
Il nous reste 5 petites minutes et j'aimerais, Pascal Balmont, que vous nous parliez de votre travail de chargé de mission écologie et société au sein de la Conférence des évêques de France. En quoi consiste-t-il ce travail?
Certainement pas à convertir les évêques. Bon, plus sérieusement, vous savez que nos évêques ont décidé, enfin ont vécu pendant 3 années, 2019-2022, pendant 3 ans, ils avaient décidé de faire de l'écologie intégrale, de la mise en œuvre de la Laudato si, l'une des priorités de leur travail en commun, de leur travail collégial. Et donc pendant 3 ans, à chaque assemblée plénière, il y a 2 assemblées plénières d'une semaine tous les ans, à chaque assemblée plénière, il y avait 2 journées entières, ce qui est absolument énorme, consacrées à la Laudato si, à l'écologie intégrale. Donc, l'un des aspects de mon travail consistait à monter, animer, vivre avec eux ces séquences. Mais d'une manière plus générale, ma mission auprès des évêques, au sein des services nationaux de la Conférence des évêques, consiste à suivre, à accompagner et animer le réseau des référents diocésains à l'écologie intégrale, parce qu'aujourd'hui, il y en a dans la quasi-totalité des diocèses, souvent des équipes, hein, voilà, qui vont travailler avec les paroisses, avec les mouvements d'église, avec les communautés religieuses, l'enseignement catholique, etc. Et puis, d'une manière plus générale, à faire ce que je peux pour que de plus en plus, cette culture de l'écologie intégrale, cette culture de l'écologie chrétienne, sous tous ses aspects, soit vraiment l'affaire de tous dans notre Église, de telle sorte que les catholiques mettent soit des témoins de ce qu'il y a de beau dans la proposition de l'Église autour de l'écologie intégrale, et que cette proposition de l'Église puisse être partagée ainsi avec le plus grand nombre. C'est aussi une forme de service que nous pouvons rendre à nos frères, à nos sœurs, à notre société. L'idée n'est évidemment pas de considérer que nous serions les seuls, nous ne sommes pas les seuls, que nous serions les meilleurs, qui suis-je pour dire une chose pareille, mais en revanche de dire que sur les enjeux d'écologie, nous avons une parole et une pratique spécifique à proposer. Après, s'en empare qui veut. Mais au moins, notre mission, c'est de la proposer.
Est-ce qu'il y a eu des passerelles avec les mouvements politiques écologistes, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce que les associations de protection de l'environnement, les associations écologistes se sont intéressées à Laudato si?
Oui, bien sûr. Parfois même, si j'osais, je dirais parfois même plus que certains catholiques. Oui, oui, bien sûr, ça intéresse. Alors après, il y a des approches qui sont parfois très différentes, voire franchement très divergentes. Mais en tout cas, je peux témoigner du fait que l'Église est attendue, que nous sommes attendus sur ce terrain-là, et que passer d'abord, souvent, moi j'ai des interlocuteurs qui peuvent s'étonner de la mission qui est la mienne, quand je leur explique ce qui se passe, quand je leur parle de l'encyclique, ah bon, pourquoi est-ce que l'Église s'intéresse à ces questions-là? Puis quand on prend le temps d'expliquer, ça intéresse beaucoup. Et je n'ai jamais finalement entendu quiconque me dire « c'est pas vos affaires ». Non, je crois vraiment qu'on nous sommes attendus, oui. Comme sur d'autres terrains, mais sur celui-ci aussi.
Oui. Oui. Une toute dernière question. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'environnement? Quel est votre parcours, vous, personnel et professionnel?
Alors, je ne suis pas un expert de l'environnement. Moi, j'ai passé la majeure partie de mon parcours professionnel dans l'enseignement catholique, où j'ai exercé un certain nombre de responsabilités. Puis quand j'étais en fin de mission, de ma dernière mission au sein de l'enseignement catholique, les évêques m'ont étaient en train de lancer leur mobilisation sur les collèges intégrales et m'ont demandé de m'investir sur ce terrain qui m'intéressait beaucoup parce que comme beaucoup de catholiques, j'ai grandi dans et par le scoutisme et que ça laisse des traces évidemment en termes de goût, d'émerveillement pour la création, de souci du soin de la création. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est que comme tout le monde, quand j'avais lu l'encyclique Laudato aussi, que ça m'avait beaucoup marqué, que j'avais cherché à réfléchir à la manière de la mettre en œuvre sur le terrain éducatif et pédagogique qui était alors le mien. Donc j'avais une forme de sensibilité. Puis la troisième raison c'est que d'entrée de jeu, nos évêques, lorsqu'ils ont décidé de travailler l'écologie intégrale, ont considéré que travailler l'écologie ne pouvait que les amener à travailler différemment. Et en particulier en invitant des diocésains nombreux à chacune de leurs séquences d'assemblée plénière sur la question. Et donc, ce qui m'a été demandé, c'est de travailler à l'articulation entre écologie intégrale et culture synodale. Et ça, je trouve ça absolument passionnant et très important.
Merci beaucoup Pascal Balmant, merci à Simon Martin, régie technique, et merci de votre fidélité auditeurs et auditrices de Radio Rancière. Je vous rappelle que ces trois émissions que nous venons de réaliser ici au Château des Vaux, vous pourrez les réécouter à tête reposée sur www.radiorancière.fr. À très bientôt.